Cachionne, le rendez-vous manga de Radio Campus Po.
Si toi aussi tu t'entraînes à faire des jojo poses dans ta salle de bain, bienvenue, tu es au bon endroit. On est sur Radio Campus Po, sur Cachionne. Je suis Tristan et je suis accompagné de...
Gaëtan, ouais. Salut.
Coucou, et donc aujourd'hui, comme convenu, on fait la petite émission spéciale Jojo Bizarre Adventures.
Ah ouais, une grosse émission...
Exactement.
Hors série,
on va perdre tous nos auditeurs, ça va être...
Mais oui.
Mais on vous aime quand même.
Hein. Mais tellement. Ah oui, bah, comme on vous l'a dit la dernière fois... Le meilleur moyen de traiter Jojo d'un coup, c'était probablement un top, hein, histoire de juste pas passer une saison dessus, vu l'immensité de l'œuvre. Hein. Putain, là, en plus, c'était l'occasion parce que Jojo Lands vient de commencer sa publication au Japon, donc c'était le bon moment.
Du coup, petit aparté, on va parler évidemment du manga.
Oui.
Et pas de l'animé que personnellement je n'ai pas vu, genre même pas un seul épisode.
Ouais.
Donc voilà, uniquement support manga.
Voilà,
on va pas parler de seiyuu, on va pas parler d'opening.
Non, même si c'est trop bien, et de toute façon vous aurez les tapis pour ça. Hein. On va bourrer.
Mais ouais, toutes les références qu'on va faire seront au manga.
Seront au manga, et d'ailleurs aussi, évidemment, on va parler du coup de tous les arcs de Phantom Blood à Jojo Lyon. Donc si vous n'avez pas lu, spoiler alert.
Oui, on va rentrer un peu dans des détails techniques.
Voilà, on va parler de tout, évidemment, forcément on va faire des renvois sur... Enfin, on va voir aussi comment les dialogues, les arcs dialoguent entre eux et tout ça. Et bah évidemment, de toute façon, on va parler du concept de chaque arc, etc. On va forcément dévoiler des aspects. Donc, bah si vous n'avez pas lu, bah désolé. Hein. Après, restez avec nous si vous en foutez ou que bah vous avez lu, vous êtes des vrais Jojo fans.
Exactement. Voilà, contrairement à moi.
Oui, bah même moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait aussi, on connaît la fanbase de Jojo qui est quand même extrêmement engagée. Et a raison, parce que bah, Jojo est un monument à bien des égards et n'a absolument pas usurpé son statut d'œuvre culte. Hein. On va reparler aussi en filigrane de ça. Hein.
Oui.
Mais en fait, nous, on est quand même relativement mesurés sur Jojo. C'est-à-dire que j'apprécie plus l'œuvre que toi.
Ouais, moi vraiment, c'était compliqué. Du coup, on peut commencer par ça, vraiment dire comment on se positionne par rapport à cette lecture.
Ouais.
Moi, vraiment, c'est pas du tout un support qui me convient. En fait, moi, j'aimais bien au début quand ça avait moins la personnalité Jojo Bizarre Adventure, en fait.
Mm-hmm.
Où c'était du Neketsu classique ou des aspects tranches de vie classiques aussi.
Ouais.
Quand ça a commencé à prendre vraiment la patte d'Araki, en fait, c'est là que j'ai décroché.
Ouais.
Donc voilà, je suis pas du tout client. Ça m'a pas empêché de tout lire et d'apprécier ce que je pouvais apprécier. Hein.
Mm.
Mais voilà, c'est pas du tout mon truc.
Ouais.
Donc ça se ressent dans dans ce que je vais en dire.
Oui.
Forcément.
Voilà. Ouais, bah moi plus client quand même, parce que bah il y a quand même un feeling shonen forcément très années 80, très jump des années 80, mais hyper créatif et débridé, moi que j'aime pas mal dans mes lectures. Voilà, donc autant vous dire qu'on a fait un top commun.
Oui.
Qui...
Donc on a passé 2 heures hier,
ah ouais,
à se battre avec nos propres tops personnels et pour en faire un commun.
C'est ça.
Et on a réussi, sans trop se battre en plus.
Voilà, donc c'est ça. Donc c'est-à-dire là, en fait, c'est le top sur lequel on s'est mis d'accord. Mais
exactement.
Je veux dire, ne soyez pas choqués si jamais on fait la mention que c'est notre arc préféré alors qu'il est sixième.
C'est ça. C'est-à-dire que justement, ce qui a été très très drôle, c'est qu'on avait vraiment, on avait une bonne moitié, une grosse moitié qui correspondait. C'était pas forcément les mêmes places, mais c'était les mêmes ordres.
Mm-hmm.
Et après, par contre, on a quelques grosses divergences, ce qui était très drôle.
Voilà. Et donc en fait, ce top là, il est pas forcément représentatif de nos tops perso, mais par contre, il est représentatif du compromis et de,
exactement,
d'à peu près de notre entente dessus. Sauf le premier, et je pense quand même au moins les deux derniers sur lesquels on est à peu près d'accord.
Ouais.
On est réellement d'accord, et après au milieu, ça a été plus bagarre.
Mais, oui.
Mais c'est ça aussi, l'exercice était cool. Et en préambule, Jojo, là où c'est intéressant avant d'entrer dans les détails, c'est que je pense que c'est la seule œuvre du manga, et donc Araki est le seul auteur, de témoigner à ce point de l'histoire du shonen. En fait, parce que chaque arc de Jojo, en fait, dit quelque chose en plus de du parcours artistique d'Araki, mais sur l'état du shonen de manière générale.
C'est très ancré. Enfin, toutes les parties, les 8 du coup qu'on va traiter, sont vraiment très ancrées dans leur époque de parution.
Voilà.
On peut, à chaque partie, on peut voir des similitudes avec des œuvres qui paraissaient en même temps.
Et son questionnement aussi sur ces œuvres-là et sur sa place dans la littérature. On va en parler de toute façon sur chaque. sur chaque arc. Mais voilà, enfin, Araki, en fait, Jojo, c'est quasiment une espèce de photographie du shonen sur bientôt 40 ans, quoi. Pour l'instant, parce que bon, là, c'est encore parti. Et en plus de ça, alors par contre, avec sa narration très particulière, et je pense que c'est quelque chose qui nous dérange un peu tous les deux, c'est que Araki, en fait, dans Jojo, il y a ce ton très particulier, c'est que tout est littéral.
Oui.
Tout est premier degré,
ouais,
tout
moi, ça,
est
je peux pas.
Exposition.
Je peux pas.
Voilà, et en fait, ça, c'est aussi sa formule. En plus, bah, toutes ces lubies qui lui passent par la tête, beaucoup d'improvisation, il en parlait, c'est que il connaît pas exactement la fin de son histoire, et donc il se laisse porter, et il voit. En fait, c'est plus ce personnage voilà, qui le guide. Il y a ce côté un peu improvisation, et voilà, quoi. Et puis des combats hyper cérébraux, hyper vénères, qui sont un peu aux antipodes de ce qu'il y avait à ce moment-là, même si c'est vachement inspiré bah, de Tetsuhara, par exemple. Qui était le dessinateur de Okuto no Ken, entre autres. C'est vraiment un auteur hyper intéressant à étudier, à la fois sur son parcours en tant que tel, mais aussi en fait par rapport juste à l'état du manga.
Puis même après, toutes les inspirations qu'on va voir plus tard.
Mm-hmm.
Parce
ah bah oui,
on peut pas ouvrir une sortie actuelle sans voir une référence à Jojo. Quoi.
Exactement, c'est qu'en plus, c'est un des auteurs les plus influents ever. C'est-à-dire que si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh!, de Death Note, dans une moindre mesure de Naruto, de Hunter x Hunter, de Shaman King et tout ça, Jojo. Ouais. Et même sur des trucs récents, genre Promise Neverland de manière moins directe, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle ce succès hyper connu, Demon Slayer, Jojo, etc.
Ouais. Genre, tous les gros. Enfin, en fait, c'est vraiment par génération et tous les gros succès d'une génération ont emprunté à quelque chose de la génération passée. Mmh. Et vraiment Jojo fait partie bah, des papas quoi.
Voilà, et donc c'est pour ça donc bah, que on lui rend hommage de manière plus ou moins salée vous
voilà dans cette bon, on peut pas donc, non plus
donc ouais bah c'est à dire son œuvre n'est pas parfaite forcément
non.
Et vu qu'il a ce côté très instinctif et bah
donc même ça serait pas non plus très agréable à faire et à écouter ouais. Un truc complètement hypocrite.
Oui. Bah c'est clair. Puis de toute façon, bah, ça serait abusé aussi pour lui que sur plus de 110 tomes, je veux dire, tout soit nickel quoi.
Oui.
Tout, surtout en plus quand on prend comme lui des partis pris hyper différents parce que c'est l'auteur qui s'est réinventé le plus de fois. Je pense en vrai quasiment même tout support confondu quasiment oui. Artistiquement, enfin genre avec des partis pris ultra osés et tout et voilà. Donc tenons, on est parti pour le top et on va commencer du coup bah, évidemment du top 8. Au top 1.
Sinon c'est pas drôle. Bon le top 1 est très consensuel pour lui.
Et alors on commence avec le top 8.
Allez, c'est
qui
parti.
Est
Et bien c'est Jojo Lyon.
Exactement.
Évidemment.
Le dernier.
Le dernier donc.
La 8ème partie.
Ouais. Du coup. Alors, Jojo Lyon, pour moi, c'était vraiment le bout du bout. J'en pouvais plus, c'était trop compliqué. Et il a un peu assemblé. Tout ce avec quoi j'avais du mal dans la série entière. Donc, un cast qui, pour moi, est compliqué à mémoriser. Puis là, en plus, il s'est amusé à sortir les mêmes prénoms sur des personnages différents.
Oui.
Ce qu'il fait déjà dans Steel Ball Run, mais...
Mais parce que, ouais, c'est des reboots. Enfin, c'est des...
C'est ça. Donc là, on est sur le reboot de Diamond is Unbreakable,
ouais.
La partie 4. Et vraiment, moi, j'avais beaucoup de mal, déjà, à me rappeler du prénom des personnages. Donc rien que ça, bah ça m'engageait pas beaucoup à rentrer dans l'histoire.
Ouais.
Il y avait ça. En plus, du coup notre Jojo de cette partie-là,
José Fumi,
est quand même pas hyper entraînant. Avec donc toute sa problématique d'amnésie, c'est pas le truc le plus engageant, je trouve. Donc ouais, c'était compliqué.
Ouais.
Déjà rien que sur le postulat de base. Et puis après, bah il y avait trop de... Enfin, donc ça c'est le problème qui va être récurrent pour moi. Mais c'est les combats à 400 de QI où on prévoit ce que va prévoir que je prévois de faire l'adversaire. Et non, moi je peux pas. C'était trop... et puis j'étais vraiment épuisé de ma lecture donc ça a pas aidé mais je pense mais du coup quand on en a rediscuté ouais. il a quand même pas trop bougé de mon classement
non.
Même après un an
ouais.
Donc c'est que vraiment
c'était pas un bon moment quoi
ouais c'était compliqué Et puis, troisième occurrence sur trois où Queen est un méchant, moi je le prends personnellement. Au bout d'un moment, je trouve ça triste.
Il y a beaucoup
et
de
je suis vexé. Voilà, c'est tout.
Et ouais, c'est vrai que Jojo Lyon, c'est particulier parce que c'est un peu l'histoire qu'il a faite en réaction avec après l'accident qu'il y a eu le 11 mars 2011 avec l'explosion de Fukushima et tout, d'où les séismes. En fait, il y a eu une espèce de réaction à ça. Le postulat de base, moi, m'intéressait bien, le côté, pas post-apo, parce que la ville, elle n'est pas dévastée, mais en fait, ce côté catastrophe naturelle, plus perte d'identité, donc quête d'identité, qu'on n'avait pas dans Jojo, parce que c'est un des Jojo les plus effacés, mais parce qu'aussi, il a le moins, enfin voilà, il sait pas. En fait, alors moi, c'est un arc qui me frustre, comme le numéro 7 également qui me frustre plus, mais c'est en fait c'est un arc où globalement il y a des choses hyper intéressantes mais qui pour moi sont pas exploitées à fond. C'est le mystère, je trouve, autour de José Fumi est trop bien, l'enquête je la trouve trop cool, mais le problème qu'il y a, c'est que lui il la porte pas du tout et parce qu'il est vachement en retrait. Alors je veux dire, je souhaite pas forcément que tous les Jojo soient extravagants de fou, mais là bon,
après
là,
ils ne sont pas tous, mais non, lui, il est vraiment trop effacé.
Ouais, il est
un
trop effacé,
comme Giorno,
il est trop normal. Ouais, c'est ça, il est un peu écrasé par son cast par son cast autour. Le problème qu'il y a, c'est que le cast, moi j'ai jamais réussi à m'y attacher à part sa copine et ouais, enfin j'ai pas accroché avec son stand non plus à José Fumi, enfin j'ai trouvé assez illisible, assez tiré par les cheveux, beaucoup de stands aussi sur lesquels j'ai eu du mal et en plus, enfin notamment moi en fait ça me sortait des parties enquête et
mais ça n'empêche pas que j'ai quand même aimé vachement de trucs.
Après, il y a plein de qualités.
Voilà, c'est juste que ce qui va ressortir de ce que je dis,
c'est pas agréable.
C'est quand même c'est plus de points négatifs que de points positifs, même dans la globalité de l'œuvre.
Ouais.
Parce que globalement, les points positifs, je pense que tu vas plus les aborder que moi, parce que tu vas plus les décrire.
Ouais.
Donc voilà, je vais surtout.
D'ailleurs, sur les points positifs.
Un peu négatif, mais bon.
Mais sur les points positifs, on peut y aller parce que bon, ça va être compliqué. Là, on va faire une petite course contre la montre parce qu'il faudra pas trop s'étaler.
C'est pour ça, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion.
Et Jojo Lyon, pour le coup, a pour moi de vrais bons points quand même. Notamment, il y a cette scène de flashback parce que du coup, José Fumi en fait est deux personnes, c'est-à-dire est composé de deux personnes. Donc, Kira, qui était le méchant de la partie 4, et José Fumi, qui est le Jojo, donc qui serait théoriquement le Josuke. De toute façon, il est appelé Josuke pendant très longtemps dans cette partie. Et leur flashback est fou, est trop trop bien. Leur histoire est super cool, hyper touchante.
Leur dédoublement graphiquement, il est trop cool.
Ouais,
aussi.
Et même cette idée en fait t'es ton corps qui soit séparé avec les pupilles et tout, c'est une pure idée. L'idée justement des hommes cailloux et des. Hommes cailloux, par contre. Mais hommes cailloux et des murs,
c'est plus classe.
C'est les golems et des murs justement. Enfin, ces murs étaient vachement intéressants, mais en fait tout est abandonné très vite en fait. Et
après, c'est un des soucis
d'Araki post Golden Wing, quoi. C'est qu'il pose plein d'idées, en fait il reste pas trop dessus. Et ça c'était dommage. En fait le mystère est cool, il est engageant. Mais j'ai eu du mal, et puis du coup aussi les parties tranches de vie m'ont beaucoup moins plu que celles de Diamond is Unbreakable, vu que je m'attachais pas au perso.
Mais c'est ça.
Ça a été le souci.
Et après, ce qui était sympa, ça rafraîchit justement de retourner sur une enquête.
Bah oui, ça fait plaisir. Surtout après Steel Ball Run, qui était justement hyper nerveux.
Ouais. Donc voilà. C'est sympa de retourner sur cette formule-là,
on l'aime
ou pas. Mais
bon point, parce que là on fait du coup à rebours, parce que c'est le tout dernier arc.
Ouais.
Mais c'est quelque chose qui est une constante, c'est que Araki est en constante évolution et amélioration de son dessin.
Ouais.
Et là, c'est le prime. Là, c'est...
Mais vraiment, depuis Golden Wind, donc partie 5, il passe d'une marche à l'autre à chaque fois. Et c'est
dingue.
Une nouvelle claque.
Mais même, déjà, je trouve que, déjà, juste si on prend Phantom Blood et Stardust Crusader, il y a un gap monstrueux.
Mais moi, vraiment, Golden Wind, c'est le moment
c'est l'ouverture.
J'étais là, ok, bon c'est... très bien, on va sortir la loupe.
C'est l'ouverture, ouais. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce que je pense que c'est on pense tous les deux, on en avait parlé.
Ouais.
Mais qu'en fait, Araki, c'est vraiment la partie où il est le plus libéré, où il est artistiquement le plus maître de ce qu'il veut, et je pense qu'il a la moins de pression, où il est en fait en exploration la plus totale des capacités, de comment il peut décliner son univers. Et du coup, en fait, ça, malheureusement, moi, la manière de ce qu'il en a fait, ça m'a pas plu.
Ouais.
Et c'est frustrant en fait, on le sent juste trop bien, hyper, hyper cool, qui part dans plein de choses et tout. Mais en fait, peut-être qu'il a moins de maîtrise, je sais pas. Et non, après, il y a des choses intéressantes, comme le fait que, vu que le personnage principal est en quête d'identité, le fait qu'il y ait une bonne partie des combats de stand qui jouent sur la désorientation, le fait d'être perdu et tout, c'est des très bonnes idées. Enfin, de toute façon, il y a quand même globalement les grosses qualités qu'on retrouve sur tous les arcs que je joue.
Voilà,
et voilà, mais bon, 8ème, je veux dire, bon, à défaut 2, parce que.
Bah, s'il faut bien en mettre un, bon, en fait, 8ème
c'est pas,
aussi.
C'est pas parce qu'il est naze, c'est plus parce que ce qui est au-dessus nous convainc plus et nous parle plus.
C'est, au bout d'un moment, il fallait quand même en mettre un dernier et voilà.
C'est ça, et du coup, c'est Jojo Lion.
Exactement. On enchaîne. Fighting God, Fighting God. Allez, et donc on passe à Golden Wind.
Et Golden Wind, effectivement, bah du coup voilà,
on a parlé de Giorno,
suspensionné.
Ouais, et ben Giorno, c'est vraiment le protagoniste qui s'efface.
Ouais, c'est alors que ce qui est dommage, hein, parce que Giorno, fils de Dio.
Oui.
Qui est un personnage pour le coup qui ne s'efface pas du tout.
Non,
quand il est là.
C'était intéressant comme revirement de protagoniste.
Ouais. Bah ouais, comme approche de plus avoir un quelqu'un de réellement, enfin de vraiment lié à la branche principale des Joestar. Parce qu'au final, lui, il est un Jojo uniquement parce que Dio l'a enfanté dans le corps de Jonathan. Et ouais, mais effectivement, genre, c'est probablement le pire Jojo.
Ouais. Oui.
C'est...
De toute façon, on est d'accord sur le pire et le meilleur.
Oui.
Mais ouais, non, Giorno, c'est compliqué. Après, moi, c'est ce que je te disais, c'est que mon souci, et je pense que ça participe aussi à sa transparence, c'est qu'il est trop fort.
Ouais.
C'est qu'il a un pouvoir de Dieu, et du coup, tu peux pas le mettre en conflit avec des gens parce que t'as pas de challenge.
Mm-hmm.
Parce que, dans Diamond is Unbreakable aussi, c'est pas un pouvoir aussi craqué que ça,
non.
Mais c'est quand même bien énervé. Et puis, je sais pas, c'est dommage d'avoir un protagoniste comme ça qui soit limité en fait par un pouvoir trop fort.
Oui.
C'est dommage.
Bah pour moi, il y a ça, et aussi mon principal problème de Golden Wind. Alors, disons que pour moi, Jojo Lion et Golden Wind dans mon top perso se battent pour la dernière place. Mais Golden Wind, moi, me frustre plus parce que Golden Wind, et du coup, ce qui est lié au fait que pour moi, enfin pour nous, Giorno s'efface aussi, c'est que à la base, on est censé être sur une histoire de conquête de la pègre, que Giorno veut arriver au prime de la mafia italienne, parce que du coup, Golden Wind s'ouvre sur l'Europe. Ça fait la deuxième fois dans le manga qu'on a un protagoniste européen après Jonathan. Et en fait, juste cette direction-là, elle existe sur même pas la première moitié du manga. Et après, revirement, où ça devient une escorte de la fille du boss.
C'est un gros couloir.
Et où en fait, Giorno, il s'efface parce qu'en fait, le rôle, la chose qu'on nous a promis au début n'est plus assurée parce que c'est Buccellati qui prend le lead et Buccellati est carrément un perso plus intéressant, en tous les cas. Et non, en fait, du coup, ça devient la quête de Buccellati qui est lui aussi de grandir dans la pègre. Et en fait, c'est lui
qui. T'as envie que ça soit lui qui avance.
Mais ouais.
Parce que Giorno, on n'a pas d'attachement. Alors
et puis son pouvoir est vachement plus cool. Oui. Buccellati avec les ouvertures.
C'est trop trop classe.
Golden Wind, en fait, pour moi, il y a deux mangas. Il y a l'histoire de Giorno qui veut avoir son ascension dans la pègre et qui est la promesse et qui dure très peu de tomes. Parce qu'au début, en fait, quand il rentre dans la bande de Buccellati et qui se fait ses potes, en fait, c'est pour que tout le monde le porte normalement au top. Et en fait, à partir du moment où ils arrivent au boss. Même avant, ça devient en fait juste la quête de Buccellati et celle de Giorno, elle passe en retrait. On a plein de choses comme ça. On a le fait que à la base on arrive à cet endroit-là parce que Koichi, qui était un protagoniste de Diamond is Unbreakable, est envoyé par Jotaro, qui est le Jojo de la troisième partie, qui en fait veut étudier le fils de Dio, quoi, parce que c'est legit un mec probablement dangereux, vu que c'est un mec que sa famille a déjà combattu deux fois. Et ça, c'est abandonné. Il y a des gens de la bande qu'on voit plus du tout. Fugo, qui est un personnage qui est censé avoir un peu de développement, qui à un moment juste est laissé sur le bas de côté.
Adieu.
Et qu'on revoit plus. Alors après, c'est parce que a priori Araki voulait en faire un traître, mais ne l'a plus jamais réutilisé. Donc en fait, ce mec, basiquement, juste est en mode salut les gars, je quitte l'histoire, et c'est ça. Du coup, ça rend le Golden Wind ultra décousu et en fait très peu engageant. Hein. En plus de ça, alors. Voilà. Notre problème, c'est le méchant.
Bah c'est ça. Toute la fin est super anticlimatique parce que le méchant, bah, on te le build up depuis le début, sauf qu'on le voit jamais.
En fait, il est absurde en plus.
Et il fonctionne pas.
Bah ouais, son concept, il est absurde. Son stand est trop fort et incompréhensible. Alors que ce qui est dommage, c'est que les combats sont souvent une grosse qualité de Golden Wind. C'est que Golden Wind intègre les tag teams. Il y a quand même beaucoup de duels, mais intègre ce principe-là dans Jojo. Donc des combats en 2 contre 2, donc des mélanges de stands avec des pouvoirs qui sont toujours plus développés et bizarres comparés à, bah, je veux dire, à Stardust Crusader qui les a inventés. Et donc il y a des très bons combats, notamment les deux frères Pecci et Puscato, je crois, de mémoire.
Les noms.
Ouais,
tu me les aurais demandé le lendemain de ma lecture, je m'en serais déjà pas souvenu.
Je crois que c'était dans le train, donc les deux frères tueurs. Ouais. Qui est en combat incroyable avec une relation incroyable, parce que c'est ça aussi l'une des grosses forces de Golden Wind, malgré ça, le fait d'être décousu, c'est que en fait c'est le premier arc qui écrit réellement des groupes de personnages et des relations de personnages, chose que Araki n'avait jamais trop fait ou trop poussé de manière convaincante jusqu'à.
Mais même qui fait là. Plus trop à cette échelle. Parce que même dans les parties qui suivent, c'est des plus petits groupes.
Oui, c'est plus petit.
Et on a de moins grosses individualités. Ouais. Là, vraiment, il gère tout un groupe. Après, pour revenir au combat, moi, même si j'enlève pas la qualité des 2v2, je trouve que... Bah, déjà, moi, les 1v1 me manquaient. Et je trouve que la mise en place des 2v2 est vraiment dommageable pour le groupe principal. Parce qu'on se retrouve avec deux méchants qui ont un pouvoir craqué et qui se retrouvent d'abord face au groupe et après ils en isolent une partie.
Ouais, bon,
c'est un peu frustrant.
Ouais, ça crée une autre qualité, quoi. C'est que du coup ça met en avant des liens de perso.
Oui.
Mais ouais, c'est effectivement quelque chose qu'on va plus refaire. Enfin voilà, quoi. Genre Golden Wind, c'est quelque chose qui était vachement prometteur, je trouve, et qui au final échoue pas mal. Alors que pareil, après aussi, c'est un arc qui change encore beaucoup de choses. Golden Wind, c'est sûrement le dernier arc en fait où il y a une vraie évolution où Araki continue d'apporter des choses à son histoire et après il est pas sur ses acquis, mais en fait il a déjà tout posé et il extrapole ce qu'il fait, alors que Golden Wind continue d'apporter des choses, ce qu'il a fait à chaque fois, chaque nouvel arc précédent. Et là notamment, il a terminé sa mutation du dessin androgyne déjà.
Oui.
Et bien comme il faut, parce que là on est passé clairement sur des personnages où il y a une vraie...
Ils ont perdu 20 kilos de muscles.
Ouais, déjà. Et ce qui était déjà un peu le cas sur Diamond is Unbreakable, mais là en fait on a carrément vraiment l'androgynie du cast masculin qui est omniprésent. Là, a été même inégalé par la suite, quoi. Il a totalement poussé ça. On est aussi sur un Araki qui se fait plaisir sur l'Italie. Hein. C'est son pays préféré, ça le fascine, donc là il s'éclate. C'est aussi le premier arc où le dessin s'ouvre vraiment beaucoup et peut-être un peu trop sur les combats qui des fois sont pas très lisibles. Et même aussi continue de kiffer, de faire des stands avec des pouvoirs toujours plus abusés et tout. Enfin voilà, c'est un arc qui avait plein de belles promesses et que malheureusement il réussit pas à tenir. Et c'est dommage. Enfin, en tout cas, il les tient vachement moins bien que le prochain numéro.
Oh là là!
Voilà, alors qui est le premier numéro clivant, d'ailleurs, vraiment clivant.
Là, ça a été très compliqué de le placer, parce que moi, c'est mon dernier.
Voilà, et moi, c'est mon troisième de mémoire. Moi, il clôt mon top 3.
Bah vas-y,
on commence par l'amour.
Vas-y.
Alors Battle Tendency, donc il y a le second arc, donc l'arc avec Joseph, qui est un des Jojo préférés des gens et un de mes préférés, parce que
je l'ai détesté.
Voilà. Donc déjà une des bases du clivage.
Voilà.
Et c'est-à-dire que Joseph c'est le Jojo le plus drôle.
Ça oui.
Qui est le plus marrant, c'est aussi celui qui est aussi mine de rien le plus rusé. Et intelligent, et en fait qui a plus ou moins amené ça. D'ailleurs, on commence vraiment à rentrer dans ce second arc avec les combats vraiment un peu cérébraux et tout. Donc c'est aussi l'arc de fin de l'onde avant qu'on passe au stand. Oui. Et c'est ça qui, enfin moi que j'aime beaucoup dans Battle Tendency, c'est couplé au caractère de Joseph. C'est aussi le fait que Joseph c'est sûrement un des Jojo qui a le plus gros écart de puissance avec ses adversaires. De base, et en fait du coup qui est obligé de filouter, ce qui tombe très bien parce que c'est déjà un peu sa cam, de filouter, et parce qu'il combat des demi-dieux millénaires slash vampires slash bêtes de muscles, enfin sa charmoire quoi, et donc les hommes du pilier. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est obligé de ruser, et en plus aussi c'est un des joueurs avec la personnalité la plus forte. Donc du coup, malheureusement pour toi.
Oui.
Mais en fait, ce qui le rend intéressant déjà dans ses premières relations avec les persos, c'est-à-dire que il y a sa rivalité avec Kaisar Zeppeli, où ils ont une relation d'amour-haine qui devient une bromance absolue et qui arrive à son climax avec la mort de César, qui est probablement une des morts qui me touche le plus dans tout Jojo. Genre la découverte et la scène pour moi sont certainement les influences de l'autrice de FMA pour la mort de Hughes. Spoiler. Et
disait FMA.
Quand on avait dit spoiler alert, c'est aussi pour tous les autres. Et du coup, oui, les hommes du pilier qui sont peut-être le point noir, qui sont des antagonistes, alors certes hyper balèzes, mais qui manquent de charisme par rapport à tous les autres antagonistes. Enfin, je veux dire, ils sont entre deux duos déjà.
Ils manquent de temps d'antenne.
Voilà. Et ils ont pas mal. Ouais, et en fait, ils manquent de développement, quoi. C'est des grosses silhouettes de puissance. Et voilà, quoi. Par contre, il y a quand même de purs combats. Alors, même si, une fois n'est pas coutume, le combat de fin est pas ouf, je trouve. Enfin, je pense que Car, c'est le combat que j'aime le moins. Par contre, j'adore le combat de char.
Ah oui.
Exceptionnel, le combat de char. Et c'est pour moi celui qui, avec peut-être celui contre ACDC, avec le champ de pique, en fait, finissent de créer la vraie formule des combats Jojo.
Ouais,
donc, de la ruse. Des adversaires qui ont chacun leur domaine de spécialité, alors les stands viendront encore plus affirmer ça, et une contrainte, c'est-à-dire il y a toujours une règle extérieure qui vient gérer ça. Donc là c'est le char, les piques, ça peut être dans des arcs après le fait d'être en public, la chaleur, le terrain, enfin plein de choses. Voilà, en fait Battle Tournament 6 a créé ça, c'est aussi le premier, on parlait d'androgynie, trucs comme ça, c'est le premier à vraiment avoir créé ça, parce que les hommes du pilier sont quand même très très efféminés dans leur idée, enfin ils sont hyper fabuleux les hommes du pilier, et même Joseph en vrai dans ses poses,
Joseph et César aussi
ouais, ils ont ce truc là déjà où on amène ça alors que qui était beaucoup moins présent déjà dans Phantom Blood, et en fait ouais, genre Battle Tournament 6 en plus c'est hyper dynamique, c'est aussi le dernier arc qui est pas du tout épisodique. Ce qui sera la formule qui viendra après. Donc pour moi sur cet homme il se tient hyper bien, il est hyper divertissant, il est hyper dynamique. Et voilà, enfin, c'est pour ça que je l'adore, et je trouve que c'est un vrai tour de force. En fait, il a amené plein de choses qui vont arriver après, tout en augmentant tout ce qu'a fait Phantom Blood. Voilà, enfin, amour.
Voilà, je suis en partie d'accord. Moi, mon problème, c'est déjà, justement, Joseph. C'est vraiment. Alors, bon, le héros ado, horny, j'accepte son existence, mais je l'aime pas. Du coup, ça aide pas. Et le fait justement qu'il soit beaucoup trop intelligent pour son propre, enfin pas pour son propre bien, mais pour être crédible, ça c'est vraiment le début des combats où tu pensais que j'allais faire ça parce que j'ai vu que tu avais fait ça, du coup je vais faire ça pour te contrer parce que t'as fait ça.
Et puis il y a des combats de pattes.
C'est moi je peux pas. Ça me sort vraiment beaucoup du récit. Parce que je peux pas le prendre comme ça, comme un bonbon de nanar, quoi.
Ouais, le fait que ce soit délivré premier degré comme ça,
je peux pas.
Ça fait une rupture.
J'y arrive pas. C'est du coup, c'est aussi pour ça que j'aime pas Jojo dans son ensemble. Mm-hmm. C'est parce que ça en fait partie, et juste moi ça j'accroche pas du tout. Donc forcément, la première apparition, elle allait pas me plaire plus que ça. Après voilà, comme tu disais, les interactions avec César, même avec Stroheim, je trouve les relations hyper intéressantes.
Ouais.
Elles sont bien travaillées, surtout pour c'est quand même un début de série. Mm-hmm. Et franchement,
c'est
vrai
démarrage en plus. C'est parce que là, c'était du coup le premier arc après Phantom Blood. Mm-hmm. C'est la première nouvelle partie du jeu. Donc là, c'était refaire tout quoi.
Voilà.
Reposer des bases. Et oui, effectivement, ouais, c'est.
Non, c'est. Voilà, ça j'ai vraiment trouvé agréable. Après, bon, les piliers qui sont. Moins que ce qu'ils pourraient être.
Oui.
Ce qui est dommage. Mais ouais, moi, mon gros problème, c'est vraiment. Tout ce qui est. Tout ce qui est de la réflexion, en fait. Mm-hmm. Que ça soit hors combat ou dans les combats. Mm-hmm. et ça me les gâche en fait, parce que je les trouve intéressants. Enfin, typiquement ceux que t'as cités, je les trouve quand même très bien.
Ouais.
Mais ça me, en fait, ça me les gâche à chaque fois, parce que la conclusion, ça va toujours être un tour de force intellectuel. Mmh. Et à chaque fois, moi, je vais le voir sortir de nulle part.
Et bizarre en plus.
Et bizarre.
C'est aussi celui, genre, je sais pas si tu t'en souviens, je crois que c'est dans le combat avec les pointes là. Où en fait il trace un espèce de
oui,
truc avec les fils
avec
de son bonnet.
Avec les fils.
Voilà.
Il défait son pull là pour faire un quadrille, enfin pour faire un lien. Et t'es là, oui, mais ouais, non.
C'est le début du côté bizarre.
C'est
vraiment.
Ça. Et moi, j'accroche pas du tout. Mmh. Du coup, c'est pour ça que toutes les parties qui en ont beaucoup,
ouais,
elles sont très bas dans mon classement, parce que ça me sort complètement de l'histoire.
Jojo aventure, oui, mais pas bizarre.
Pas bizarre. Voilà.
Bon, bon résumé, je pense, pour Battletoads Anti.
Eh bien, allez, on enchaîne.
On est dessus, enchaînons avec.
On n'est pas venu pour enfiler des perles, de toute façon.
Exactement.
Donc, Allez, Stardust Crusader.
Exactement, l'arc qui suit.
Exactement.
Chronologiquement parlant.
C'est la partie 3 et c'est mon top 3.
Ouais, à moi, c'est. c'est plus bas.
Voilà.
C'est plus bas parce que Stardust Crusader, c'est sûrement. Là, on est encore dans les arcs, du coup, post. Pré plutôt Golden Wind. Donc, où vraiment, il y a plein d'évolutions en tous les sens. Et c'est assez ouf. Et donc, Stardust Crusader est le plus connu parce que les stands.
Oui.
Et donc, forcément, et parce que Dio over the top, et parce que Jotaro.
Moi pour le coup Jotaro je l'ai trouvé sympa, même si il est très très sombre et torturé, mais il est sympa. Les interactions qu'il y a dans le groupe, vraiment c'est mon groupe préféré de de la série, c'est mon groupe préféré.
Ah ouais, okay.
Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est la dernière partie où il n'y a pas de soigneur.
Oui.
Du coup, on garde ce dont on a parlé avant, mais le fait que il y a quand même une importance à l'intégrité corporelle des personnages.
Oui.
Et ce qu'on perd à partir de la partie 4, où les gens sont globalement en pâte à modeler. Et ça, je trouve dommage, parce que même si on sait que le gentil à la fin, il va très 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 probablement gagner et qu'il va pas se passer grand chose de mauvais pour tous les gentils, mais au moins on s'attache quand même à l'intégrité physique.
Mmh.
On se dit que si t'arrive quelque chose de grave et que tu perds ton bras, t'as perdu ton bras.
Ouais.
À moins d'avoir un univers qui te permet d'avoir des bras mécaniques,
oui,
n'importe quoi.
Être un Namek.
Voilà. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage dans les parties qui suivent. C'est que vraiment, on a des combats où tout le monde se fait transpercer de part en part 15 fois et le lendemain matin, ils sont bien et ils peuvent prendre un bain sans être une passoire, quoi.
Mmh.
Donc ça, j'ai bien aimé.
Ouais.
J'ai trouvé cool. Même si le problème que j'ai eu, c'est que ça faisait vraiment boss rush et on a très peu de temps sur les antagonistes.
Ouais.
Et mention spéciale à Joseph qui fait des allers-retours devant Polnareff sans le reconnaître. Et ça, j'ai mais enfin, c'est un mec de 2 mètres avec une espèce de coupe improbable. T'es passé 4 fois devant. Et non, tu ne l'as jamais reconnu.
De toute façon, c'est le début, la dégringolade.
C'est
de
ça,
Joseph,
après,
hein.
c'est le grand âge, donc
Joseph,
c'est normal.
Joseph est devenu con.
Et... Oui. Il est plus drôle, mais
ouais,
plus bête.
Ouais, il est rigolo aussi, dans cet arc-là.
Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé la comédie vraiment réussie sur cet arc.
Oui, il est cool. Ouais. Polnareff est rigolo aussi, comme personnage.
Et en fait, ça fait vachement partie du fait que j'aime beaucoup ce groupe.
Ouais.
C'est que les interactions sont cool, les pics qui s'envoient fonctionnent bien.
Mmh.
Et voilà.
Je deviens agressif.
Vas-y, hein. Ça sera bien la seule fois où c'est pas moi, donc
c'est vrai.
Vas-y.
Non, ouais, moi Stardust, c'est l'arc qui me frustre le plus. Parce que pour moi, Stardust Crusader, il est moitié trop long.
Oui.
Et c'est ça, en fait. C'est que.
Ça, pour le coup.
C'est que le souci, c'est. Alors, il est pareil, il est archi couillu d'avoir créé le stand, parce que du coup, Araki était fatigué de Londres, il pensait qu'il n'y avait pas de limite. Enfin, il y avait. Non, au contraire, il y avait. Enfin, c'était hyper limité, alors que le stand, virtuellement.
Oui.
Ça l'est pas, et d'ailleurs c'est sûrement lui qui a été le plus loin dans les délires des mangas à pouvoir.
Oui.
Voilà, intestable le mec. Et là encore, il est encore gentil dans Stardust Crusader, c'est très très gentil comparé à toutes les parties qu'il y a eu après. Parce que bon, on a, là encore, on a juste des stands de je suis un flingue, je crache du feu. On n'a pas encore les machins de je reboot l'univers et machin.
Ouais, ça arrive, ouais. ça arrive.
Et voilà, donc c'est, moi, c'est le souci, c'est qu'en fait, pendant la moitié, alors c'est un road trip, on doit aller taper sur Dio parce que Dio est revenu
et parce que Dio est méchant.
Et en train de tuer la mère de Jotaro qui est notre Jojo. Sauf que, en fait, bah, il y a plus de la moitié des méchants, et il y en a beaucoup, des adversaires, ouais, qui n'ont aucun impact, aucun enjeu scénaristique. Ils sont là parce que c'est des pions qui sont devant, c'est du map.
Et surtout dans la première partie.
Oui, oui, bah c'est ça. En fait, c'est des combats de map de RPG. Ouais. Parce que Araki, bah c'est pareil, là, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que Araki, en fait, bah, c'était la mode des mangas tournois et des arcs tournois, et lui, il voulait pas en faire. Et en fait, c'est demandé comment il pouvait quand même faire quelque chose d'un peu similaire, mais sans que ça tombe là-dedans. Et il a pensé au RPG qu'il aimait bien. Donc, en plus, c'était la grosse période Dragon Quest, FF, Final Fantasy et tout. Donc, en fait, il a plus ou moins calqué son manga. Et beaucoup d'éléments qu'on retrouvera après viennent de là. Donc, sur ce côté, on va d'un point A à un point B et on tombe sur des adversaires de map.
Ça se sent très fort. Hein, et là, c'est vraiment. On ouvre un chapitre, on est dans un nouvel endroit, il y a un méchant.
C'est ça. Et c'est exact. C'est toujours le cas. Et en plus, c'est renforcé par le fait qu'il ait développé, ce qui va continuer sur la suite, une espèce de peur d'autrui, d'impression que les gens qu'il ne connaît pas sont malveillants à son égard, et donc c'est ce qui va amener ce truc-là. Ce qui amène des scènes intéressantes, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un espèce de côté presque loup-garou, quoi. Ils arrivent dans un endroit, il y a un pouvoir qui les atteint, et ils cherchent qui c'est. Ce qui est intéressant, alors en général, c'est le mec bodybuildé qui est caché.
Généralement, c'est vraiment le gars qui est en train de flex ses 400 kilos de muscles avec une coupe improbable.
C'est ça. Et voilà. Et moi, j'ai ce problème-là. C'est par contre, la deuxième moitié a des combats exceptionnels, notamment les combats avec les frères Darby. Donc, Darby le tricheur qui joue au poker et Darby le joueur de jeux vidéo, qui sont clairement pour moi la matrice de tout Yu-Gi-Oh! C'est l'invention du jeu des ombres. Voilà, il y a celui-là. Il y a le combat contre Dio à la fin. Dio, même si je l'apprécie pas en tant qu'antagoniste dans cet arc-là. Ce combat, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de Dragon Ball qu'est fait Araki. Il est exceptionnel, ce combat. En plus, littéralement, il vole et tout, quoi, les gars.
Oui.
Et c'est assez barge. Jotaro, moi, c'est un personnage sur lequel j'ai du mal à m'attacher. Parce que c'est cette espèce de puissance. C'est ce Kenshiro. Mais Kenshiro sans ce côté un peu romantique, donc juste être une brute sombre taciturne. Qui est vachement inspiré de l'inspecteur Harry, Araki est archi fan de Clint Eastwood. Et d'ailleurs, même jusqu'à la pause, et le yale. J'ai du mal à m'attacher émotionnellement à lui, sachant qu'il a jamais de difficultés dans ses combats.
Bon, en même temps, avec un pouvoir comme ça.
Ouais. Effectivement. Du coup, j'ai ça. Alors, par contre, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a quand même des petits moments où il laisse passer des émotions quand sa mère est en danger et tout. Donc ça c'est cool, mais pour moi Stardust Crusader il est trop long, c'est pour moi l'arc le plus pénible à lire avec Jojo Lyon. J'ai trop du mal à le lire alors que la fin est trop bien. Et voilà, et en plus moi j'aime pas spécialement le groupe non plus, donc je trouve que en fait la seule chose par contre qui est intéressante dans la première moitié c'est tout le développement de Polnareff et la quête pour venger sa sœur. Mais après j'ai du mal à m'attacher, même s'il y a des combats très bien par-ci par-là, mais vu qu'ils ont pas d'impact direct sur le scénar. Voilà, et donc c'est dommage. Donc ouais, Stardust, dommage.
Voilà. Du coup, on le met au milieu.
C'est ça.
Pour pas se mordre.
C'est ça. Et donc c'est ok, sachant qu'il a plein de qualités. Stardust Crusader, pareil, hyper intéressant, hyper important pour la suite. Et sachant, en fait, pour moi, Jotaro est beaucoup plus intéressant quand il revient après, dans les arcs après. Contrairement à Joseph.
Joseph qui dégringole vers la sénilité.
C'est ça. Et donc voilà. Donc et on peut passer à la
suivant,
suite.
Hein.
Donc
numéro 4,
au dernier gros accrochage.
Oui.
Donc
qui a un peu le même profil que celui-là en fait.
Oui, c'est ça, exactement. C'est Steel Ball Run. Donc Steel Ball Run, moi qui est mon second.
Ouais.
Et toi qui es ton dernier.
Et moi qui est mon dernier.
Voilà. Donc autant vous dire que.
C'était. Merde, attends, je l'ai où ? C'était Battle Tendency, mon dernier.
Ah, qui est avant-dernier, du coup.
Ouais, c'est avant-dernier.
Et voilà, donc Steel Ball Run, moi qui est. Que j'hésiterais même à placer premier dans mon top, tellement je l'aime. Tellement Steel Ball Run, pour moi, est un reboot réussi, parce que du coup, après Stone Ocean, Jojo Aventure Continue, Jojo Bizarre Aventure Continue, mais c'est plus du tout la famille Joestar liée, quoi. C'est une autre version, et là on est en version western, déjà amateur de western, très content. En plus de ça, la relation Johnny-Giro est dingue. Johnny est un des meilleurs Jojo en termes d'écriture, je trouve, même si je l'apprécie pas plus que ça en termes de perso, mais il a un développement de petit con riche bourgeois hautain à humble gars slash bromance.
Bah, c'est un des meilleurs développements protagonistes.
Ouais, de Jojo. Et Giro est un monstre de charisme. Hein.
Oui.
Moi, j'étais très content que ça revienne aussi à des combats beaucoup moins ambitieux en termes de stand aussi. Enfin, du coup, déjà, il n'y a pas que des combats de stand, vu qu'on revient un peu à Londres. Mm. J'étais très content. Après, j'aime beaucoup le principe de la course. Je trouve que ça, c'est en fait une manière, je veux dire, un peu magique, et mais qui fonctionne de justement d'avoir cette espèce de machin de boss rush qu'a pu avoir Stardust Crusader, mais tout en ayant beaucoup de pauses.
Ouais.
Tout en ayant beaucoup de pauses, et un peu ce côté Sergio Leone, quoi.
Genre, c'est mieux amené aussi.
Oui, bah ouais, et un étirement du rythme qui est trop cool. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de combats que j'apprécie. Notamment, je sais pas si tu t'en souviens, alors je vais te sortir le nom, c'est pas ça que.
Non, ça va pas.
Voilà, c'est contre Ringo Rodegen, c'est le gars qui peut revenir dans le temps de 6 secondes.
Ouais.
Et c'est un gunfight.
Oui.
Et ce combat, je le trouve incroyable.
Oui.
Il y a aussi, Duo revient du coup.
Oui.
En Diego. Diego.
Ça, c'est un des problèmes
et
aussi.
Et le best duo de la saga.
Mais parce que c'est un dinosaure.
Mettez-moi de la hate dessus.
Voilà, c'est juste parce que c'est un dinosaure.
Il devient un dinosaure. Et voilà, et son combat où il devient dinosaure, pour moi, est un des sommets de Jojo. J'adore ce combat. Voilà, il y a ça. J'adore le méchant aussi. Le méchant, c'est celui qui a le but peut-être le plus profond, de Jojo, tout en étant celui qui réussit peut-être le mieux à partir de ce moment-là à conjuguer pouvoir débile et trop fort et ludique et rigolo à mater, sachant que son combat, alors même qu'il est en plusieurs parties, fait au moins 4 tomes.
Oui,
il est
archi long. Parce que vraiment, le combat est très réussi.
Ouais,
hein.
Il a plein de phases.
Ça...
et tout. Voilà, en fait, il y a beaucoup de personnages secondaires que je trouve hyper intéressants aussi. Il y a Sandman qui est un Amérindien qui veut gagner la course par rapport à son peuple aussi. Moi, j'aime énormément le MacGuffin.
Qui court.
Oui, qui court d'ailleurs, alors que tout le monde est à cheval.
Il fait sa course à pied.
C'est ça. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi le MacGuffin. Enfin, la raison pour laquelle tout le monde développe des pouvoirs qui étaient jusqu'alors. Après Stardust Crusader, une flèche dorée qui donnait ses pouvoirs. Là, moi, j'adore le fait que ce soit lié au corps du Christ. Et j'aime bien cette idée. Ça donne un côté hyper mystique en plus.
Ouais.
Enfin, parce que c'est quelque chose de, je veux dire, de réel entre guillemets, auquel on peut s'identifier. Enfin, on n'est pas dans cette quête-là, mais
ça met
une vraie dimension spirituelle, je trouve.
Oui.
Et en plus, un commentaire hyper pertinent sur les États-Unis. En plus, en tant que fondation, et qui est lié à Funny Valentine, le méchant qui est le président des États-Unis. Voilà, je trouve que c'est un arc hyper solide, hyper complet. Je trouve que c'est celui qui a son scénario qui est le mieux lié à la manière dont il évolue. Voilà quoi, et en plus, il y a des gunfights partout, trop bien écrits, donc je suis heureux. Voilà. Donc. Et en plus aussi, il y a le fait que c'est le premier Jojo qui est dans un magazine Seinen. Et donc, il y a aussi un côté, une violence accrue aussi, une libération aussi du ton, je trouve. C'est vraiment là où il commence à se sentir hyper à l'aise, et ce qu'il va encore développer sur Jojo Lyon. Pour moi, en fait, il y a une ouverture, et toujours pareil, on a encore des planches magnifiques, mais
oh
ça,
oui,
c'est
ça,
croissant.
Ça, on ne peut pas lui enlever.
Voilà, toujours des planches magnifiques, beaucoup d'attention sur le regard aussi. Alors, ça, je pense très Sergio Leone aussi. Voilà, enfin, Steel Ball Run, la vie. Mais pas pour tout le monde.
Non.
What a transition.
Non, moi du coup, Johnny, je l'ai trouvé très effacé. Pas forcément de la même manière que Giorno.
Ouais.
Mais vraiment, il est très dépendant de Giro.
Mm-hmm. Oui, et que en plus, y a une espèce de relation mentor slash bro.
Alors du coup, la relation, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu de la partie. Vraiment, c'est trop réussi. Ça et le combat contre Valentine. Vraiment, ces deux points... rien à dire.
Ouais,
mais je suis beaucoup moins attaché au raptor que toi.
Moi, je suis un enfant. Il y a des T-Rex.
Mais Johnny, je l'ai trouvé un peu dommage parce que, vu comme il est arrogant, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de trucs.
Ouais.
Parce que qu'il arrive à tirer son arrogance de son passé de jockey.
Ouais.
Et dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, tu te dis redescends peut-être un peu,
oui.
Parce que ton pouvoir, c'est quand même d'avoir un Colt.
D'ailleurs, c'est ce que le mec qui l'a rendu handicapé a fait plus ou moins.
Voilà. Et du coup, Johnny, je l'ai trouvé dommage, surtout en revenant de Stone Ocean.
Ouais.
Là, c'est quand même deux salles, deux ambiances.
Mm-hmm.
Donc il y a ça, j'ai trouvé assez décousu. Alors pas tout le temps, mais il y avait vraiment des moments où j'étais où j'avais l'impression de passer d'un point à l'autre, où il me manquait une transition, quoi. Ouais. Donc ça a été un peu dommage. Après, c'était pas non plus tout le temps, hein, mais assez pour que je le note. Ouais. Donc ça a dû arriver assez souvent. Après, mais c'est aussi pour ça qu'il est au fond de ma liste, c'est que c'est le retour des espèces d'oracles super détectives qui sont dans la tête de leurs adversaires. Mmh. Et bah ça, je l'ai déjà répété 16 fois, mais ça marche pas. Donc forcément, c'est dommage. Alors. Parce qu'après, le fonctionnement de course, même si les règles et les enjeux de la course sont abandonnés très vite, il marche bien. Moi, j'accroche bien. J'ai trouvé que les combats, ils s'intégraient bien, justement, dans les différentes courses.
Oui. Ça justifie le côté road, enfin le côté map monster, quoi.
Et voilà. Après, ouais, c'est dommage, du coup. Enfin, moi, je trouve dommage d'abandonner complètement le postulat de départ, qui est de faire une course avec des règles. Et après, le dernier point vraiment dommage, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais là, vraiment. C'est même pire que dans Jojo Lyon, là c'est vraiment pas ta mode les showers. On va se prendre un chargeur entier dans le ventre et à la fin du combat on ira mieux, quoi.
On est détente.
C'est ça.
Sans Senzu.
Et là, ouais, en plus là il y a même pas de vrai.
Il y a pas de healer.
Il y a pas de healer, mais quand même il dort et ça va mieux.
Il y a Machine avec son pouvoir, son stand de chair là, mais.
Oui, mais elle est pas tout le temps là et ça devrait avoir un peu de limite quand même. Oui. Donc là vraiment c'était la partie où ça m'a le plus marqué et le plus dérangé du coup. Ouais. Parce que j'aurais préféré qu'il y ait un syndrome de Stormtrooper où personne n'arrive à se toucher, plutôt que voir tout le monde se faire transpercer par 12 chargeurs avec un Colt et après on en ressort et tout va bien. Ouais. J'aurais préféré comme ça. Mais voilà, après il y a la petite frustration du pouvoir de Valentine qui implique des multivers et moi ça me gave, mais bon ça c'est un petit point technique, quoi. Mais sinon le combat est trop cool. Ouais. Et voilà.
Eh bien nous arrivons au podium.
Allez, genre le podium. Petit podium.
Avec le bon vieux Phantom Blood.
Là où tout a commencé.
Le départ.
Voilà. Après, moi, j'ai pas grand-chose de truc à dire, en fait.
Non plus.
Il est juste très carré.
Ouais, moi.
Après, ça va être un peu ma review du top 1. Ouais. C'est que ça fait juste très bien ce que ça fait.
Bah oui, c'est ça.
Mais bon, après, il y a un coup de mou sur Phantom Blood, c'est pour ça qu'il est pas plus haut.
Ouais, il y a un gros ventre mou. Ouais. Le début est trop bien, la fin est trop bien.
C'est ça. Après, ouais. Le milieu, il se passe rien et
c'est
on s'ennuie.
Et on a des persos qui servent à que dalle. Ouais. Voilà, mais non, mais en fait, Phantom Blood, je pense qu'on peut résumer ses qualités à d'énormes couillasses.
C'est le terme technique.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire que Phantom Blood, déjà arrivé dans le paysage manga avec un héros pas japonais, c'est chelou. Un peu comme Stardust Crusader a fait d'ailleurs avec un groupe multi-ethnique.
Oui.
Au début des années 90 au Japon. Quel est le fuck. Et là, bon après là c'est anglais, disons il y a moins, ça reste un blanc sur lequel européen sur lequel
oui,
le Japon fantasme.
Mais... L'Angleterre et la France de cette époque-là, ils aiment beaucoup.
Bah c'est ça, il y a le côté romantique. Mais après, par contre, faire crever son Jojo, son protagoniste après 5 tomes,
ouais,
c'est énervé.
Un personnage aussi passif que ça, en tout cas au début, c'est pas non plus.
Ouais, après ça, je sais pas si c'est à mettre à son crédit. Je sais pas si
non,
c'est une volonté.
Non, mais c'est différent.
Oui, c'est sûr, oui, parce que.
C'est différent. Enfin, parce que
Jonathan
ça,
est.
En fait, on a limite. Autant d'attachement pour Dio que pour Jonathan.
Bah plus pour Dio d'ailleurs, parce que Jonathan.
Déjà, Dio il est beaucoup plus proactif et il a un passé très triste.
C'est ça.
Mais du coup, c'est quand même un parti pris d'avoir mis en avant son antagoniste plutôt que son personnage principal.
En fait, que ton personnage principal dans ta tête en tant qu'auteur, ce soit le méchant.
Ouais.
Et dans le Shonen Jump, amitié et fort victoire, quoi.
Ouais.
Pas du tout. Là, on se fait transpercer la tronche dans un bâton en feu une tête. Voilà, non, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est juste hyper cool d'avoir fait ça. C'est beaucoup de choses très nouvelles qui sont arrivées, alors qu'ils sont pas encore totalement maîtrisées, mais parce que la suite va faire en sorte de justement parfaire ça. Mais voilà, enfin, Dio, qui pour moi est à son prime à ce moment-là, hein, oui. C'est-à-dire c'est une espèce de c'est une espèce d'enflure absolue.
Mais après il est complètement, enfin c'est lui qui porte la
partie. Qui porte le récit, ouais.
Et il est lui-même porté par tout ce qui l'entoure, son passé et les interactions qu'il a avec les gens.
C'est ça. Et son intelligence, le fait que ce soit une giga boule de haine.
Ouais, c'est
et
ça.
C'est ça en fait qui rend, qui est aussi le principal moteur de l'évolution de Jonathan. Mmh. Qui est un espèce d'amour, mais genre juste beaucoup trop naïf et con.
Il est adorable.
Et voilà, et qui devient en fait juste un espèce de paladin, quoi.
C'est ça.
Et
justement,
enfin,
c'est intéressant de voir comment ils se changent mutuellement. C'est hyper intéressant.
C'est ça.
Enfin, c'est bien fait. Parce qu'après, intéressant, depuis, on en a lu plein, donc c'est pas non plus neuf pour un lecteur actuel.
Non, mais c'est joli.
Mais c'est bien fait.
Ouais.
Et voilà, ça fait plaisir.
Et qu'on a à côté du deltaplan en feuilles. Donc,
oui, le fameux deltaplan en feuilles que j'avais oublié sur la première lecture.
Quelle vie.
Et maintenant, je m'en rappelle très
bien. Bah oui, non, mais en plus, voilà, on a aussi déjà le côté un peu absurde, bizarre, hyper créatif, mais encore de manière hyper restreinte par rapport à la suite. Et voilà, Phantom Blood, c'est un beau premier arc qui est forcément plus faible que tous les autres. Mais à la fin, en fait, qui est pas désagréable à lire parce qu'il fait ça sur 5 tomes et que c'est en fait à son plus bas, c'est un shonen basique.
C'est ça.
Et donc voilà, donc c'est déjà ok.
Mais très très bien mené.
C'est ça.
Et là, il y a pas encore. De toute façon, c'est sur les deux premières parties. Mm. J'ai pas ce problème de c'est Batman contre Batman.
Ouais.
Où on va essayer de deviner les 16 prochains coups de l'adversaire. Là, moi, je l'ai pas, donc je suis heureux.
Et ouais. Et donc c'est tout pour Phantom Blood, hein.
Oui,
on va passer beaucoup plus. De toute façon, on
c'est
est un peu rêche en temps.
En plus.
on va passer au top 2.
Allez.
Stone Ocean.
Stone Ocean, meilleur, Joline.
Meilleur Jojo.
Voilà.
Meilleur Jojo.
Joline, vraiment, rien à dire.
Mais en vrai, meilleur Jojo, pas très bon arc.
C'est en fait, là, c'est pareil. C'est comme. Tout comme Phantom Blood est porté par Dio, là, vraiment, Stone Ocean, c'est clairement porté par Joline.
Ouais. Joline.
Joline, moi, je la trouve. Dans sa création, elle est intéressante parce qu'elle est, violente, elle est très colérique.
Puis elle est perdue aussi.
Et
c'est un des rares Jojo qui est en fait pas du tout assuré au début.
Ouais. Et en fait, elle est vraiment en quête de reconnaissance de son père et du monde. Et du coup, ça change. Et c'est agréable parce que c'est vraiment bien traité.
Mmh.
Après, les gens qui vont l'entourer plus tard, on s'en tape.
Ouais, le plus intéressant, c'est Foo Fighters. Quoi. C'est le stand qui doit être humain,
c'est ça.
Qui est un peu drôle.
Oui, parce que ça amène des interactions rigolotes.
Et puis en plus, son parcours est cool. Vu que le gros thème de Stone Ocean, c'est la mémoire.
Ouais.
En fait, le fait d'avoir un être artificiel qui n'en a aucune, mais qui est humain et qui se crée des souvenirs, c'est hyper intéressant.
Ouais.
En fait, tous les personnages sont sympas.
Oui, mais ils sont
écrasants. Non, en fait, c'est le cast du milieu de Phantom Blood, quoi.
C'est ça.
Enfin, Hermès, elle est cool, mais plus. Voilà. Enfin, Weather Report. mis à part son truc de fin lié aux méchants.
Ça, moi, pour le coup, c'est un problème. Mais après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé pour Joline aussi, c'est que elle évolue constamment
et de
manière visible.
Ah oui.
À chaque nouvelle confrontation, elle va se servir d'un truc qu'elle a appris juste avant. Et c'est tellement fluide, c'est hyper bien amené. J'étais vraiment à chaque fois, je me disais mais ça, elle l'a appris juste avant et tout le temps.
Ouais,
c'est fou.
Puis aussi, je pense que c'est la Jojo qui utilise de manière la plus créative, peut-être avec Josuke, son stand.
Oui, mais c'est
plein,
ceux qui ont besoin de réfléchir en fait.
Bah ouais, mais en fait,
il n'est pas craqué son pouvoir.
Mais ouais, mais en même temps, il y a plein de manières hyper cool et hyper variées duquel elle l'utilise et c'est trop bien. Mm. Non, en fait, ce qui est cool en plus, c'est qu'elle soit liée à Jotaro, du coup, c'est la fille de Jotaro, qui était du coup le badass mutique de la partie 3, qui est devenu biologiste rigolo dans la partie 4. Et là, en fait, qui a une fille. Alors, moi, je dirais pas qu'elle est en reconnaissance de son père. Enfin, pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait, c'est qu'elle finisse par l'accepter, mais en fait. Elle parle d'un autre problème, c'est les familles monoparentales / divorcées, des relations qu'il y a, et notamment au Japon. Et donc il y a ce truc hyper rebelle, hyper nique la société, hyper punk.
Oui, mais elle le rejette beaucoup.
Et après, on se rend compte à la fin
qu'elle avait besoin de cette connexion.
C'est ça, et ce qui est trop bien, enfin Joline, c'est un pur perso. Et, Et alors, même si il y a peu de choses que je retiens de Stone Ocean, genre il y a peu de choses qui m'ont marqué, et peu de combats aussi notamment, à part le dernier, et quand elle est dans l'aile de haute sécurité, j'ai revu en voyant mes notes, contre l'espèce de gros garde là.
Oui.
Genre ce combat est fou.
Oui.
Genre ben, en fait moi ça m'a rappelé des combats de Battletoads anti quoi, où t'as basiquement une meuf alors musclée, mais genre pas absolument pas l'armoire qu'elle a en face, qui a un stand en plus. Mm. Et en fait le fait qu'elle le surmonte, enfin je trouve en plus qu'il y a presque comme si elle tabassait son père, enfin il y a...
ouais.
Parce que ce mec là c'est une espèce d'image de Jotaro méchant et c'est trop cool. Enfin voilà, ce combat est assez fou et vient la fin quoi, avec un antagoniste intéressant mais genre.
Bah, moi la fin elle est symptomatique des problèmes que j'ai avec Stone Ocean, c'est que on va te sortir une face cachée du stand et une face cachée de la face cachée.
Ouais.
Et le tout saupoudré de... Et en fait, là-bas, il y a un courant ascendant qui est apparu il y a 50 ans. Du coup, je vais m'en servir pour faire crasher un avion. Non, mais c'est bon.
Puis lui, en plus, bah, je veux dire, la manière de réussir à atteindre son plein potentiel, son but, enfin, d'éveiller son stand, bah, elle est lunaire, quoi. C'est une espèce de rituel absurde,
ça,
de
vraiment,
ouf et ridicule. Et ce qui est dommage, parce que son but est intéressant, je veux dire, c'est un méchant qui amène ce que va être Funny Valentine, quoi. Le fait qu'il a un vrai but intéressant lié à ça, donc plus ou moins atteindre le paradis sur Terre, et tout en ayant en plus une espèce de grief total envers Jotaro, parce qu'il est admirateur, slash amant, plus ou moins de Dio. Donc c'était cool, mais c'est débile. Par contre, le fait de reboot l'univers et de casser sa continuité comme ça, encore une fois, Araki, les bols total.
Puis ça amène à des pures planches. Hein.
Ouais, bah ouais.
Elles sont magnifiques.
C'est abusé, hein, mais c'est en fait Araki une nouvelle fois qui continue de se dépasser, continue à questionner sa propre œuvre et à se réinventer. Et là, bah, en fait, il avait le sentiment...
Queen aussi.
Oui, en plus. Il avait le sentiment qu'il était arrivé à son prime, en fait, avec Stone Ocean, et du coup, il a décidé de terminer Jojo et de repartir sur autre chose, qui est devenu toujours Jojo, et ce qui n'était pas aussi clair que ça au début.
Donc, mais techniquement, c'est pas la même continuité.
Non, c'est ça. Et donc, énorme bols d'avoir fait ça, c'est abusé. Et alors, je sais pas si c'est la fin que Stone Ocean méritait, mais à la fois, c'est abusé d'avoir fait ça en termes de créativité, oui. D'expérimentation dans un circuit, je veux dire, mainstream, c'est ouais. Assez
bah, c'est
ouf.
Comme d'avoir tué Jonathan.
C'est ça, c'est pour moi le truc le plus abusé.
Tu sens vraiment qu'il va pas faire de concessions sur ce qu'il
non,
a envie
ah
de
non,
raconter.
C'est ça qui est intéressant.
Et c'est hyper agréable.
Ouais. Et voilà, et en plus bah, d'avoir créé, en fait, d'avoir réinventé un nouveau type de Jojo intéressant et proactif et qui apprend, mais en cassant totalement le côté très badass et monolithique qu'il avait pu avoir avant. Parce que même Josuke, duquel on va parler là,
on arrive.
Parce que du coup, vous vous doutez du premier, Josuke, il avait quand même ce côté très cool, très badass, moins que Jotaro, de toute façon.
Tout le monde
moins que Jotaro. Mais voilà, et même que Joseph, par exemple. En fait, elle est vachement plus faillible, vachement plus fragile, mais par contre, elle devient
mais
son
elle
père.
Beaucoup plus de
bah
choses
oui,
aussi.
C'est ça, et elle et devient son père.
C'est le pur héros de Neketsu, quoi.
Ouais.
Et sur cette belle conclusion, on peut passer à... Diamond is Unbreakable.
Au premier, alors sur lequel on va pas trop pouvoir s'éterniser, mais...
Non,
mais
bah après, voilà,
Diamond
c'est
Unbreakable,
trop bien.
En fait, Diamond is Unbreakable a basiquement toutes les qualités de tous les autres arcs, fait en mieux. Donc c'est des stands ludiques, genre des héros attachants, du relationnel trop cool, le meilleur méchant.
Oui. Et puis la meilleure conclusion. Enfin, ce dernier affrontement, il est interminable et il est fou.
Oui. Il est abusé. Et enfin voilà, il y a ça, il y a aussi le côté aussi... rigolo, le fait de revenir à une plus petite échelle. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est normalement, Jojo devait s'arrêter à Stardust Crusader.
Ah
ouais. Et que, en fait, il a fait Diamond is Unbreakable juste parce qu'il avait encore des idées. Plein d'idées qu'il avait pas fait dans Stardust. Il a fait bon, bah ok, go. Finalement, ça a refait un arc.
Par contre, jamais tu veux emménager dans cette ville. Hein.
Non. Non, clairement pas. Non, alors par contre, ça m'a surpris à la relecture du fait que je pensais que Diamond is Unbreakable était vachement plus compact en termes de trucs. Il y a quand même, pareil, il y a quand même ce côté tranche de vie au début où on vogue vachement de personnages qui semblent inutiles, donc on est là genre pourquoi on fait ça, et en fait ils reviennent après, il y a des enjeux, c'est vachement cool en fait comment ils utilisent le côté tranche de vie pour créer des situations genre en apparence, et des personnages en apparence pas plus intéressants que ça, qui reviennent à différents moments, et donc ça crée vraiment un vrai tissu de relations et une grosse interconnectivité dans cette ville qui ressemble à une ville.
Ouais, ouais,
c'est trop bien d'avoir recentré l'intrigue sur quelque chose de qui est circulaire et non pas une droite quoi, non pas horizontale ou verticale selon où on va, mais qui ne va pas d'un point A à un point B. En fait, c'est quelque chose qui reste dans son jus et c'est trop bien, tout le monde se connaît et tout.
C'est ça. Et on revoit plein de monde qu'on a vu.
C'est ça,
et
en du plus, coup, on revoit Jotaro, on revoit Joseph.
C'est ça, on a vraiment l'impression de.
Ouais, c'est une vraie continuité. Ouais. Et en plus d'être sur un univers fermé, restreint et qui est cohérent. Et c'est d'autant plus là que Kira est un méchant exceptionnel. C'est que Kira, en fait, c'est le poison de ça. C'est en fait comment est-ce qu'on empoisonne une communauté, un truc que tout le monde se connaît, qui est en apparence cool.
Ouais.
En ayant quelqu'un qui se cache au milieu et qui, comme Araki a peur de ça, quoi, qui en fait a de mauvaises intentions. Et en plus, lui, qui sont particulières, parce qu'en soi, lui, il veut juste être peinard et en fait vivre sa psychopathie de manière détente. Alors, c'est chacun. C'est un giga psychopathe avec un croisement formidable de Queen et David Bowie.
Encore une fois,
voilà, mais bon, Queen a le meilleur méchant.
Oui!
Et David Bowie également, mais avec un pur design, mais surtout aussi, enfin moi ce que j'aime énormément chez Kira, et qu'on retrouvera pas trop par la suite, c'est que lui aussi c'est un méchant en fait qui est très rarement en contrôle, et qui est très faillible et très vulnérable.
Mais il est tout le temps, en fait il se fait tout le temps retrouver, il est tout le temps en pleine improvisation.
C'est ça, et je trouve que c'est exceptionnel d'avoir ce méchant alors auquel on s'attache pas, parce qu'il est horrible, on le voit être horrible, sachant qu'il
y a vraiment jamais un moment où on a un peu de tendresse pour lui.
En plus avec des fétiches absolument horribles et tout. Mais en fait, il est vulnérable et du coup, il paraît vachement plus crédible que un duo de Stardust Crusader qui est juste tout le temps surpuissant dans l'ombre à faire ses pauses et à ricaner. Là, en fait, non, il est hyper proactif. En fait, il est toujours vachement en danger, tout en étant hyper balèze et tout en réussissant constamment à un peu se remettre en contrôle. Et c'est vachement intéressant. Et après, il y a plein de super combats, il y a plein de super utilisations. Le stand de Josuke est incroyable en termes d'idées. Notamment cette course à moto avec le stand qui te poursuit dans le tunnel là, c'est trop cool. Où genre en fait il crache une moto pour la reconstruire en haut. Enfin, c'est du génie.
Et encore une fois, ça mène à des planches
folles. Ouais, Stardust Crusader, voilà. Et en plus, tout en amenant aussi le dessin de Araki, justement de la transition de des sur-bodybuilders à quelque chose qui va arriver sur l'androgynie des personnages.
Justement, j'ai eu un problème sur cette transition parce qu'il est quand même vachement passé sur du chibi. Et t'as plein de moments où ils sont tout petits, avec des énormes têtes.
Ouais, c'est aussi parce que c'est le plus rigolo aussi. Enfin, y a aussi ce côté très gag.
Mais même hors des gags, ils le gardent. Et moi, j'ai pas accroché. Après, c'est vraiment mineur. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent la transition.
Ouais.
Et je trouvais dommage qu'elle passe par là. Parce que, en fait, tu les prends jamais trop au sérieux. Bon, après, c'est des lycéens, ils font n'importe quoi.
Oui, puis en plus, le duo Josuke et son pote, là, j'ai plus le nom, il est trop drôle. C'est vraiment des teubés.
Mais du coup, ça aide pas. En fait, tu les iconises pas comme on avait l'habitude avant et comme on voit après.
Ouais.
C'est que vraiment, t'arrives sur un moment où ils sont tout mignons, tout rigolos et ils ont une tête qui fait la taille de leur torse.
Ouais.
Et en fait, ça dessert un peu les moments sérieux.
Mmh. Oui, c'est clair. Mais après, par contre, Diamond is Breakable, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Mais c'est par contre les plus gros moments de tension de tout Jojo.
Ah oui. Avec des pouvoirs comme ça, c'est sûr.
Bah ouais, parce qu'en fait,
t'es sur.
L'échelle elle est plus courte et même les stands sont moins abusés que ce qu'on a vu parce que, le stand de Kira est débilement fort, mais c'est pas arrêter le temps.
Oui.
C'est.
Oui, mais justement, c'est vraiment des pouvoirs un peu tous qui jouent sur la tension, enfin, qui vont créer de la tension.
Oui.
Donc forcément.
Et en plus, à une échelle plus respectable et c'est ça qui est trop cool. Enfin, c'est. Du coup, il y a des vrais moments de tension, notamment pas mal de fois où justement sur la track de Kira, quoi, où Kira est en danger, genre ils sont à ça de la voir, et lui, une espèce de moment, puis en plus il étire la tension, enfin c'est un chef-d'œuvre. Cette partie, et voilà.
voilà, top
Diamond is Breakable, numéro 1, dans les cœurs.
Exactement. Et ça, pour le coup, on était d'accord.
Et oui. Et voilà, bah, belle conclusion.
Ouais.
Alors là, bah, évidemment, pas de « avez-vous déjà lu hein, ?» parce
non.
que c'est la fin, et c'est déjà bien chargé. Et je vais m'éclater au montage pour essayer de... de rentrer dans les clous.
Non, mais on va juste vous envoyer des bisous.
On va vous faire des bisous.
Et à la prochaine.
Et vous dire, ouais, re-émission spéciale, là, voilà, la prochaine, c'est émission portrait de lecteur.
Exactement.
Voilà, donc... vous découvrirez de quoi on va parler, ça va être chouette. Et donc, si jamais.
Petit suspense.
Ouais. Et après, si jamais vous voulez participer à des émissions comme ça, n'hésitez pas. Go le Instagram.
Exactement.
De. Voilà. Et on est bon.
Allez.
Donc voilà, c'était le top de Jojo.
À la prochaine.
À la prochaine. Matané.
Matané.